Vous êtes sur RTL.
Votre réveil en info avec le journal de Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Agnès Buzyn tente d'éteindre l'incendie aux urgences.
Un service sur trois est en grève, le mouvement dure depuis 6 mois. La ministre de la Santé vient de faire de nouvelles propositions, notamment pour améliorer la prise en charge des plus âgés. Mobilisation contre les violences conjugales, le gouvernement lance son Grenelle. À ceux qui dénoncent un coup de com', Marlène Schiappa en charge du dossier leur demande d'attendre avant de juger, vous l'entendrez. Et puis on reviendra sur la frayeur de cet apprenti pilote en Australie, son moniteur s'est évanoui en plein vol, mais tout s'est bien terminé.
Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Alors vous surfez avec Michel Sardou.
Ah, on l'a retrouvé en pleine forme hier sur RTL, la joie de vivre incarnée.
De météo d'ici 7h.
Ciel bleu et 25 degrés, c'est le programme météo de l'après-midi à Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne.
RTL Matin.
Mais avant toute chose, cette disparition mystérieuse en Isère.
Cela fait un mois que Khaled Mella, un journaliste franco-algérien de 64 ans, a disparu de son domicile de Chauzeau, au nord de Bourgoin-Jallieu. Il est connu en France pour avoir notamment fondé la radio Beurre FM. C'est surtout un opposant politique très critique à l'égard du pouvoir algérien. Pourquoi a-t-il disparu subitement? On sait qu'il souffrait d'un début d'Alzheimer. Sa fille Amel, au micro d'Alice Moreno.
À tout le monde, tous ceux qui peuvent, partout en France et même en Europe, quelqu'un qui aurait vu un homme de 1m70, assez mince, chauve, vêtu d'une casquette et de deux baskets différentes, qui peut peut-être être tellement fatigué qu'il ne peut plus parler, de le signaler, ça peut être lui. Parce qu'on y croit encore, il est encore en vie, tant qu'on ne nous amène pas à la preuve du contraire. Quelqu'un ne peut pas partir comme ça un soir et ne pas revenir et ne laisser aucune trace. Je ne peux pas vivre avec ça, et donc ça c'est sûr que ça devient insoutenable. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Je m'enferme dans le noir ou je le cherche? C'est ce qu'on fait depuis maintenant un mois. Tout le monde y va de son hypothèse, on va pas vous le cache pas. Et c'est vrai que des fois, vous avez l'impression d'être dans un mauvais téléfilm.
Propos recueillis par Alice Moreno pour RTL.
RTL 6h32, nouvelle sortie d'Agnès Buzyn pour tenter d'éteindre la crise aux urgences. Elle dure depuis 6 mois.
La ministre de la Santé avait débloqué 70 millions d'euros au début de l'été sans parvenir à apaiser la colère des urgentistes. Alors que les syndicats de médecins hospitaliers viennent de rallier le mouvement, elle s'est rendue dans un service de Poitiers où elle a annoncé une première série de mesures censées soulager ces urgences. Anaïs Bouisson.
D'abord, pour désengorger les urgences, le SAMU aura davantage le choix. Il pourra décider de transporter un patient soit vers les services d'urgence, comme c'est le cas déjà aujourd'hui, soit vers un cabinet de médecine générale de garde en l'absence d'urgence vitale. Les patients qui préféreront ce qu'on appelle donc la médecine de ville, le médecin de garde le plus proche, auront un avantage financier, le tiers payant. Ils n'auront plus d'argent à avancer pour la partie sécurité sociale. La deuxième principale mesure, elle concerne les personnes âgées. Au lieu d'affluer aux urgences, elles auront une sorte de filière dédiée à l'hôpital, un service spécialisé pour la perte d'autonomie avec un budget supplémentaire. Enfin, la ministre de la Santé veut s'appuyer davantage sur le numérique. Objectif, connaître en temps réel à l'aide d'un fichier quels lits sont occupés service par service pour être sûr d'avoir de la place quand on envoie un patient aux urgences. Toutes ces mesures devraient être précisées, complétées, chiffrées en présence des professionnels de santé dans une semaine.
Anaïs Bouissou, une mission parlementaire s'attaque à un phénomène nouveau en France, les thérapies dites de réorientation sexuelle. Des stages souvent religieux qui prétendent guérir, entre guillemets, l'homosexualité. C'est une pratique très répandue aux États-Unis, mais encore difficilement quantifiable en France.
Le gouvernement lance son Grenelle contre les violences conjugales.
Jusqu'au 25 novembre, les associations, les victimes et leurs familles vont faire des propositions alors que plus de 100 femmes sont déjà mortes depuis le début de cette année sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. Certaines associations dénoncent une opération de com' du gouvernement. Réponse très agacée de la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa.
Moi, je suis un peu blasée, si vous voulez, d'une espèce de fonctionnement dans lequel, dès lors que vous faites quelque chose, ça ne va pas, ça n'est jamais assez. Et des gens qui, alors même que le Grenelle ne s'est pas encore produit, ont une certitude, avec certitude, un avis négatif sur ce qui va se produire. Je trouve ça formidable d'avoir le pouvoir de lire l'avenir. Moi, je n'ai pas ce pouvoir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, justement, pour que ce Grenelle des violences conjugales débouche sur des mesures concrètes et sérieuses. Et je tends la main à toutes les personnes qui sont partantes pour travailler concrètement contre les violences conjugales dans le cadre de ce Grenelle ou en marge.
Un propos recueilli par Julien Fautra.
Et c'est un sujet que l'on évoque avec vous, bien entendu, depuis 4h30 ce matin au 3210. Dans quelques minutes, vous entendrez justement le témoignage, si vous l'avez raté il y a une heure, d'une femme battue qui nous a appelé ici à RTL. Et puis à 7h20, nous prendrons 3 minutes pour comprendre l'échec justement de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes avec l'enquête RTL d'Émilie Beaujard aux côtés de Yves Calvi.
En politique, Cédric Villani, qui annoncera demain sa candidature à la mairie de Paris, veut rassurer Emmanuel Macron. Ce n'est en aucun cas un acte de défiance vis-à-vis d'En Marche, explique-t-il. Le député LREM de l'Essonne affrontera le candidat officiel de la majorité, Benjamin Griveaux, qui, et c'est une info RTL, a écrit aux adhérents du parti pour leur dire qu'il ne demanderait pas son exclusion. Un homme de 26 ans tué hier soir à Marseille dans les quartiers nord, très certainement en règlement de compte. La victime était connue pour trafic de stupéfiants. Et puis un guet-apens fait un mort et un blessé dans un parc de stationnement de l'Aïle-et-Rose dans le Val-de-Marne. Ça s'est passé peu après 19h. Là aussi, il s'agirait d'un règlement de compte. 3 autres personnes seraient en fuite, d'après nos confrères du Parisien.
Allez, une pause dans ce journal et ensuite, frayeur en plein vol.
.com.
RTL Matin,
Julien Cellier.
À 6h38, vous écoutez RTL. Voici un premier cours de pilotage dont justement le pilote va se souvenir longtemps.
Un Australien qui apprenait à manier un Cessna, un petit avion biplace, a eu la peur de sa vie lorsqu'il a vu son moniteur s'évanouir en plein vol. Mais tout s'est bien terminé. Racontez-nous, Christophe Decroix.
Sylvester ne savait pas grand-chose, mais par chance, il a su faire marcher la radio. Urgence, urgence, dit-il dans l'attente, angoissé que la tour de contrôle lui réponde. Je vous entends, répond le contrôleur, qui comprend rapidement le problème. Mais à la question « Savez-vous piloter ?», le novice réplique « C'est ma première leçon ». Bon, on va d'abord s'assurer que les ailes restent stables, poursuit le contrôleur, qui a appelé à la rescousse un pilote de Cessna pour guider Sylvester par radio. Par chance, le trentenaire ne perd pas son sang-froid. On le fait passer une première fois au-dessus de la piste pour qu'il se fasse une idée du terrain. Et vient le moment où, quand il faut y aller, il faut y aller. Je sais que c'est stressant, mais on va t'aider, crache la radio de la tour de contrôle. La scène dure 20 minutes jusqu'à l'atterrissage, un peu brutal, mais... Bien joué, tu l'as fait mon pote, c'est incroyable. L'instructeur, toujours inconscient, a pu être emmené à l'hôpital et Sylvester est reparti avec son premier diplôme de pilote solo.
Incroyable récit.
On a eu chaud pour lui en
signé
fait.
Christophe Decroix.
Ah, on était dans l'avion avec lui là.
Et ouais, Marina, vous disiez, ah, j'ai les poils. Hein,
bah oui, j'ai des frissons. Ouais.
C'est le premier bilan officiel de l'ouragan Dorian. Il a fait au moins 5 morts aux Bahamas où il se trouve toujours. Il avance très lentement, rétrogradé de catégorie 5 à 4. Il se rapproche des côtes de la Floride. L'origine de l'incendie est toujours inexpliqué. Un bateau de plongée a pris feu au large de la Californie. 8 personnes au moins sont décédées. 26 personnes sont toujours portées disparues. L'incroyable allocution hier soir de Boris Johnson devant le 10 Downing Street à Londres, sous les huées de la foule des manifestants rassemblés à proximité, le Premier ministre qui s'apprête à suspendre pour 5 semaines les débats parlementaires a menacé les députés d'organiser des législatives anticipées en cas d'échec de sa stratégie sur le Brexit.
Aigle Azur vole toujours.
En cessation de paiement, la compagnie aérienne vient d'être placée en redressement judiciaire. Les vols peuvent se poursuivre jusqu'à mi-octobre. Des candidats à la reprise comme Air France sont déjà sur les rangs. Xavier Doré, pilote chez Aigle Azur et membre du SNPL.
Le but étant de garder l'activité. Si les glazures ne volent pas, forcément, l'activité va s'arrêter rapidement. Donc non, les avions sont prévus de voler, il n'y a aucun doute là-dessus. Et le redressement judiciaire n'a strictement rien à voir avec ça. Le but est de comprendre ce qui s'est passé financièrement, qu'est-ce qui nous a amené à arriver à une société, comme vous le savez tous, qui existe depuis 1946, à arriver à, encore quelques mois, on nous disait qu'on était déjà quasiment rentable avec le lancement du non-courrier, même positif. Et là, on apprend que finalement, ce n'est pas le cas. Donc on essaie de comprendre ce qui se passe. Et l'administration judiciaire, son travail, c'est justement de mettre clair ce qui s'est passé.
Recueilli par Arnaud Touche. Le sport, Gaël Monfils qualifié pour les quarts de finale de l'US Open. Le Français a battu facilement l'Espagnol Pablo Andújar. Il affrontera au prochain tour l'Italien Matteo Berrettini. La fin du mercato en Ligue 1 de football à retenir entre autres le PSG qui s'offre l'attaquant argentin Mauro Icardi, 2 fois meilleur buteur du championnat italien ces dernières saisons.
Merci beaucoup Jérôme et à tout à l'heure, 8h.